Spotkania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Bonjour et bienvenue au Carrefour de l'Europe. Heureux de vous retrouver et de vous souhaiter une bonne année. Il est encore temps. 2018 sera-t-elle une bonne année pour l'Europe, voire l'année de l'Europe? Après les multiples crises que l'Union européenne a affrontées au cours de cette décennie, a priori, plutôt oui. Avec Emmanuel Macron, président, et Angela Merkel, chancelière, deux Européens convaincus à la tête des deux plus grands pays de l'Union européenne. Tout semble aller pour le mieux en ce début d'année, d'autant plus que les clignotants économiques, croissance et chômage sont au vert. Mais voilà, Angela Merkel n'arrive pas à former son gouvernement et l'Allemagne se trouve dans l'incapacité d'accompagner Emmanuel Macron dans sa volonté de réformer l'Europe. Et l'horizon s'assombrit avec une élection en Italie qui pourrait voir la victoire du clown Beppe Grillo, une incertitude quant à l'intégrité territoriale espagnole, le Brexit qui mobilise bien des énergies, une tendance illibérale en Pologne comme en Hongrie ou encore l'extrême droite au pouvoir en Autriche. Alors dans ces conditions, 2018 sera-t-elle l'année européenne? Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Yves Bertoncini.
Bonjour.
Vous êtes le président du Mouvement Européen France. En un mot, ce mouvement européen?
Ce sont quelques milliers de militants qui se souhaitent la bonne année en plusieurs langues européennes et qui essayent de faire vivre
24,
le débat sur l'Europe en France. 24 pour certains. Moi, j'avoue que j'en suis plutôt à 5 ou 6, plus modestement. Et donc, faire vivre le mouvement, le débat public sur l'Europe en France depuis presque 70 ans. Le congrès de La Haye dont nous célébrons le 70e anniversaire, c'est le printemps prochain. Pédagogie sur l'Europe, débat contradictoire et puis évidemment un plaidoyer pour davantage d'Europe à chaque fois que nécessaire.
Pascal Durand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputé Europe Écologie, oui. Et pas Europe Écologie Les Verts.
Écologie,
il y a toujours voilà, Europe Écologie.
Voilà. Eurodéputé écologiste, c'est bien.
Voilà. Et merci d'être ici, et non pas à Strasbourg ou Bruxelles. Bonjour Stéphane Seydendorf. Guten Tag.
Bonjour.
Vous êtes le directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsbourg. Merci d'être en ligne de Strasbourg dans un studio de France Bleu Alsace. Un petit mot sur cet Institut franco-allemand de Ludwigsbourg qui n'est pas si connu que ça.
Voilà, aussi un vieux acteur déjà du franco-allemand, fondé en 1948, on aura aussi 70 ans, un institut de recherche en sciences politiques, une plateforme de rencontres entre Français et Allemands.
Alors Yves Bertoncini, avant de parler de 2018, il me paraît bon de faire un petit retour en arrière et de voir d'où l'on vient. Alors j'actionne la machine à remonter le temps. Nous ne sommes plus le dimanche 14 janvier, nous sommes le 14 janvier 2017. Alors que disait-on de l'Europe il y a un an tout juste? On était plutôt inquiet sur l'avenir de l'Europe.
Surtout en tant que Français. Il y avait une fable qu'on racontait à l'époque, c'était l'idée que le Brexit engendrerait d'autres volontés de sortie. Pour ma part, je n'y ai jamais cru, parce que j'ai toujours distingué l'europhobie, c'est-à-dire détester l'Union européenne tellement qu'on veut la quitter, des euroscepticismes qui demeurent aujourd'hui. Mais on a vu, en France en particulier, que l'europhobie incarnée par le Front National avait été défaite, et bien défaite, et notamment sur cette question de sortir de l'Union européenne et de l'Union monétaire. On observe d'ailleurs en ce moment même en Italie que Beppe Grillo, que vous avez cité, est en train de tourner Kazakh sur ce sujet, parce qu'il voit bien que les opinions publiques, qui peuvent être très critiques sur l'Union européenne, mais ne mettent pas en doute l'appartenance à l'Union européenne. Et donc, en France, on a eu cette confirmation que l'europhobie était minoritaire, que l'euroscepticisme, certes, demeurait important. Il est d'ailleurs divers, en France comme ailleurs. Et en même temps, on a eu la surprise, la bonne surprise, qu'un président plutôt europhile, lui, soit élu Emmanuel Macron, et qu'il essaie, depuis lors, de promouvoir une vision de l'Union européenne, notamment formalisée lors de son discours de la Sorbonne, une vision ambitieuse, difficile à mettre en œuvre naturellement, notamment en raison du contexte politique européen. Mais enfin, c'était utile que dans notre pays, qui est un pays fondateur de l'Union européenne, on ait un président architecte, je dirais, plutôt qu'un président pompier qui vole de crise en crise, ou un président maçon qui n'explique pas ce qu'il fait.
Le schéma de la construction, notamment à ceux qui vont habiter dans la maison.
Absolument.
Alors, depuis, il y a eu des populismes contenus lors des élections aux Pays-Bas, une unité des 27 dans le dossier Brexit qui ne s'est pas démenti, et puis bien sûr, vous venez de le souligner, l'élection d'Emmanuel Macron, le candidat qui a fait applaudir le drapeau européen dans ses meetings, et la victoire d'Angela Merkel en septembre, une victoire étriquée. En tout cas, Emmanuel Macron et Angela Merkel partagent une même appétence pour l'Europe, à tel point que leur vœu de bonne année sont quasiment interchangeables. Et cela n'a pas échappé à Maria Afonso.
Pour la chancelière allemande et le président français, 2018 est une année décisive pour l'ambition européenne. Les deux chefs d'État sont sur la même longueur d'onde. D'un côté, selon Emmanuel Macron, l'Europe est bonne pour la France. De l'autre, pour Angela Merkel, l'avenir de l'Allemagne est lié à l'Union européenne.
L'avenir de l'Allemagne est lié de façon indissociable à l'avenir de l'Europe. Les 27 États d'Europe doivent agir plus que jamais en tant qu'une seule communauté. Ce sera la question déterminante des années à venir. Il s'agira, pour nous, Européens, de représenter nos valeurs de façon solidaire et déterminée à l'intérieur et à l'extérieur. Et ce, dans un monde mondialisé et numérisé. Il s'agira de travailler pour une Europe économiquement performante et juste et d'œuvrer pour la protection de nos frontières extérieures et pour la sécurité de nos concitoyens.
Wie auch die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger eintreten.
Le dialogue franco-allemand est au cœur de la refondation européenne pour le président français.
Pour ma part, je continuerai à travailler avec chacun de nos partenaires européens et tout particulièrement avec l'Allemagne. Ce colloque intime avec nos amis allemands est la condition nécessaire à toute avancée européenne. Elle n'exclut pas le dialogue avec tous nos autres partenaires, mais elle est ce par quoi tout commence.
Tout irait donc pour le mieux dans le cadre d'une politique de relance de l'Europe, sauf qu'une fois n'est pas coutume, les Allemands, faute de gouvernement, sont aux abonnés absents, et cela va durer au moins jusqu'au mois d'avril, hein, Stefan Seydendorf.
Oui, si ces tentatives de former une grande coalition, comme on dit, une coalition entre sociaux-démocrates et conservateurs réussit, on espère avoir un gouvernement autour de Pâques, donc le 1er avril. La question c'est, est-ce que cette grande coalition renouvelée, elle sera plus si grande que ça d'ailleurs, hein, 53% des voix au Parlement, est-ce qu'elle pourra se mettre d'accord sur un agenda ambitieux concernant l'Europe? C'est pour l'instant un des points d'achoppement et je pense on va y revenir. C'est pas clair que de ce conflit entre les deux partenaires, futurs partenaires d'un gouvernement, va sortir quelque chose de constructif.
Alors c'est en tout cas une situation inédite en Allemagne, hein, où vous l'avez dit déjà, les deux grands partis n'ont totalisé que 53% des suffrages, c'est historiquement bas, et c'est la première fois que l'Allemagne se trouve dans cette situation. Il y a eu une tentative d'une première coalition, dite coalition jamaïcaine avec les libéraux et les verts, et cela a échoué. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne, dites-moi Stefan Seydendorf?
Donc en Allemagne, c'est un système parlementaire, il faut toujours une majorité parlementaire pour un chancelier. Le chancelier, il est pas élu directement par les citoyens, mais par la majorité au Parlement. Là, pour la première fois, on a une forte poussée d'un parti europhobe, xénophobe, l'alternative pour l'Allemagne, populiste de droite, qui est entré avec 12% à peu près des voix au Parlement. Et du coup, ça complique les majorités possibles, puisque bien évidemment, personne ne veut former une coalition avec ce parti d'extrême droite. En même temps, les sociaux-démocrates de Martin Schulz, ils avaient un peu marre de cette grande coalition où ils sont toujours le plus petit partenaire, où ils ont toujours le problème que en fait c'est la chancelière qui est en première ligne et eux ils sont un peu obligés de être faire le travail derrière, mais ils peuvent pas tellement ensuite récupérer les succès qu'il y a eu avec ces grandes coalitions.
Il y a eu deux grandes coalitions historiquement, ils ont perdu des électeurs à l'issue de ces deux gouvernements de grande coalition, donc effectivement, on comprend.
Et ça vaut pour les trois partis, c'est peut-être le dernier point qu'on peut faire rapidement, qui veulent former un gouvernement, et surtout pour leurs trois leaders. Les trois sont des acteurs politiques qui ont perdu les élections. Hein. Il y a Madame Merkel qui a clairement perdu presque 8% des voix. Il y a son allié, la CSU bavaroise de Horst Seehofer, les conservateurs de Bavière, qui ont eu des pertes historiques de 50% à 38%, et la SPD qui est descendue de 5% à 20%. Donc pour les trois partis et pour leur leader, Martin Schulz, que j'avais déjà cité, Angela Merkel et Horst Seehofer, c'est des acteurs qui sont contestés dans leur propre rang maintenant.
Pascal Durand, cette absence de gouvernement allemand, maintenant depuis 3 mois et probablement encore pour 3 mois à peu près, donc 6 mois d'un gouvernement qui gère les affaires courantes, même si le système en Allemagne est différent, le gouvernement central, c'est une chose, il y a les 16 Länder qui gèrent beaucoup de choses, donc il y a déjà 16 gouvernements qui travaillent bien en Allemagne. Est-ce que cette absence de gouvernement allemand paralyse l'Europe et notamment ça se ressent au sein dans les couloirs du Parlement européen?
Alors paralyse, le mot est peut-être un peu fort, un peu excessif, mais ça n'aide pas à construire une vision d'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, la difficulté que nous traversons là, c'est d'essayer d'embrayer, si je peux utiliser le mot, sur la volonté d'Emmanuel Macron de prolonger cette dynamique européenne et de reprendre la main sur ces sujets-là. Et effectivement, une Allemagne qui a une vision, une Allemagne qui a un regard à moyen ou à long terme, aiderait, bien sûr. On le voit sur tous les sujets qui, pour le moment, sont un peu en attente, qui sont un peu bloqués. Les sujets sur l'énergie, les sujets sur les réformes constitutionnelles, enfin sur un certain nombre de points sur lesquels on attend que le fameux couple franco-allemand soit moteur. Et politiquement, là, il n'y est plus. Donc ça n'est pas génial. On peut continuer à gérer évidemment les affaires courantes, et c'est ce qui se passe, mais ça manque quand même de force et de dynamique et de vision. Surtout à un moment, et là je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Yves Bertoncini tout à l'heure, à un moment qui est très très particulier, puisque c'est le moment où on s'aperçoit que tous ceux qui ont défendu le Brexit ont menti. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce que l'on disait dans le cadre des campagnes de 2016 en disant mais ils sont en train de vous promettre quelque chose qui n'existera pas, on l'a vu d'ailleurs avec Nigel Farage, Et tous ces grands défenseurs de la Grande-Bretagne uniquement anglaise, ils ont échoué. Ils ont clairement échoué. Et donc, on est en train de reprendre la main sur ce qu'a dit Angela Merkel, c'est-à-dire sur le fait que nous avons un destin commun et que ce destin commun, nous devons maintenant le mettre en œuvre. Donc, on est là à un moment très particulier en Europe. Emmanuel Macron est au rendez-vous. Son discours à la Sorbonne l'a prouvé. Ça serait bien, effectivement, que les Allemands, que l'Italie aussi, hein, parce que c'est pas simplement le couple franco-allemand, notamment, puisse être là, à ses côtés.
Alors justement, Yves Bertoncini, dans l'absolu, l'amélioration de la conjoncture, croissance dans la zone euro autour de 2%, chômage qui est descendu à 8,7%. On est loin du plein emploi, mais on peut rappeler qu'on était à 12% il y a encore quelques années, il n'y a pas si longtemps. Donc, tous ces phénomènes, ces situations ouvrent une fenêtre pour la refondation de l'Union européenne, sauf que Emmanuel Macron est un peu seul, comme vient de l'expliquer Pascal Durand, dans un paysage qui pourrait se révéler plus difficile dans quelques mois, percer des populistes et des anti-européens éventuellement en Italie avec l'élection au début mars, et Beppe Grillo, le clown populiste qui quand même est en tête des sondages autour de 30%, c'est évidemment une hypothèque importante sur l'avenir de l'Europe.
Non, mais il est clair que le contexte politique partisan en Europe reste difficile, même si le contexte géopolitique, lui, est plutôt porteur. Parce que Pascal Durand vient de rappeler le Brexit, il faut aussi mentionner l'élection de Donald Trump, qui a quand même beaucoup chamboulé les choses et qui a poussé la chancelière Merkel, je reprends l'expression de Pascal Durand, à dire qu'il fallait que maintenant les Européens prennent leur destin en main. Et c'est vrai que, alors pour le coup, Emmanuel Macron, bon, dans les pas de François Hollande, a bien montré qu'en matière de changement climatique, l'Union était absolument indispensable. Il l'a redit en Chine il y a quelques jours. Face aux défis sécuritaires, on est plus fort ensemble, comme le disait, là j'ironise un peu, mais David Cameron, parce que quand il y a des menaces comme la menace russe à l'Est, et puis le chaos irako-syrien, le chaos en Libye, il y a quand même, évidemment, d'un côté un sentiment de repli qui peut s'exprimer, parce que quand on perd le contrôle de la situation, il y a les bonnes vieilles frontières nationales qui peuvent apparaître comme des paravents symboliques, mais malgré tout, dans les opinions publiques, cette idée aussi que l'union fait la force. Donc le contexte géopolitique est porteur. Le contexte politique l'est moins parce que d'abord il a fallu encaisser des crises récentes. Je citerai la crise de la zone euro. L'alternative für Deutschland a d'abord émergé en Allemagne sur ce sujet. Puis ensuite la crise des réfugiés qui évidemment a boosté là aussi l'alternative für Deutschland. Mais on voit bien les fractures que tout ça a créées aussi en Europe centrale et orientale. Alors je dirais, et pour conclure sur Emmanuel Macron, que dans ce contexte-ci, sa responsabilité c'est vraiment d'insister sur les sujets globaux, la façon dont l'Union fait la force à plusieurs, plutôt que, je dirais, d'insister sur les fractures ou même de les accroître. Et les Européens tous ensemble ont deux sujets qui peuvent les conduire à aggraver leur crise de copropriétaire cette année. D'abord, c'est les enjeux d'état de droit en Pologne. Donc naturellement qu'il faut appeler au respect de l'état de droit en Pologne, mais nous savons bien que les procédures européennes sont assez inopérantes en la matière. Donc on peut faire dégénérer cette crise de copropriétaire. Et puis, il va y en avoir au moins Un autre, c'est le budget. Hein. On va revoir le budget. Alors, c'est qu'un débat d'orientation. Mais là, on peut s'empailler joyeusement sur un sujet comme ça. J'ajoute en réalité le vrai sujet décisif qui est la réforme de la politique européenne de l'asile, tout ce qui relève des frontières. Ça fait trois sujets sur lesquels les Européens peuvent se déchirer, comme ils l'ont fait au moment de la crise de la zone euro. Alors que s'ils regardent davantage le monde extérieur, et Emmanuel Macron peut les y inciter, bien naturellement nos amis allemands, peut-être qu'ils trouveront davantage de sens à leur unité. Et donc en résumé, on est quand même dans une année de bascule hein, sur un sujet comme celui-ci, où il faut faire très attention à ne pas accroître les fractures qui ont divisé les Européens, et où il faut au contraire insister sur ce qui les unit et l'intérêt hein, qu'ils soient davantage unis dans le futur.
Alors Stéphane Seydendorf, Yves Bertoncini vient nous expliquer qu'on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, hein, c'est un peu comme on l'entend. Vous seriez tenté de le voir comment ce verre, plutôt à moitié plein, à moitié vide. Je laisse de côté les problèmes que connaît l'Allemagne en ce moment. Mais on peut peut-être revenir sur cette fracture entre l'Est et l'Ouest qui est effectivement porteuse d'inquiétude avec deux Europes qui se comprennent, qui risquent en tout cas de se comprendre de plus en plus difficilement, même si le gouvernement polonais a changé, il y a un nouveau Premier ministre, il y a des ministres qui étaient très contestés par les Européens et par Bruxelles, par la Commission, qui sont qui ont été remplacés, on va voir un peu ce que ça peut donner, mais est-ce qu'il y a là, pour vous, Stéphane Seydendorf, un risque d'escalade dans l'incompréhension européenne?
C'est une année charnière qui est devant nous et dans les années charnières de l'Europe, il y a les questions géopolitiques qui refont surface. Que du coup, il y a vraiment des questions d'orientation. L'Allemagne et tout le gouvernement allemand est effectivement très intéressé, met une grande priorité à garder l'unité de l'Europe et à intégrer les voisins à l'est de l'Allemagne. Pour la première fois, il faut comprendre ça un peu en Europe de l'Ouest, l'Allemagne est dans une situation où la frontière est de l'Allemagne n'est pas une frontière difficile, chaude ou d'ennemis. Il n'y a plus de bloc soviétique, il y a des pays qui font partie de la même union. Et donc ça, c'est quelque chose à préserver à tout prix. Évidemment, de l'autre côté, il y a le problème que la plupart des acteurs qui aspirent au gouvernement en Allemagne en ce moment, ils se positionnent de manière pro-intégrationniste pour approfondir l'Union européenne et ils souhaiteraient aller de l'avant, ce qui semble difficile avec les acteurs en Pologne ou en Hongrie. L'Allemagne est très prudente, le gouvernement allemand était, et ça va être le cas à l'avenir aussi, très prudent sur ses propositions françaises de faire un noyau dur. C'est plutôt vers une coopération flexible où pas forcément tout le monde prend part dans toutes les politiques communes que le côté allemand pencherait.
Alors d'un mot, il y a encore un sujet d'inquiétude que l'on n'a pas évoqué, parce qu'elle durant, c'est évidemment l'Espagne et la Catalogne. Au lendemain du vote du 21 décembre, on est revenu à la case départ, et évidemment, il y a là un risque de morcellement de l'Europe. Je crois que quelqu'un a fait le calcul que si l'Europe devenait l'Europe des régions, on aurait, 86 ou 90 régions, évidemment, à 28 ou 27, c'est difficile, à 90, c'est totalement impossible.
Non, simplement, il va falloir qu'on réfléchisse à une réforme des pratiques des États-nations. Le schéma de l'État-nation ne va pas disparaître demain matin en Europe, et il faudrait être, j'allais dire, vivre dans une réalité, une autre dimension, pour pouvoir croire que demain les États vont s'effondrer. En revanche, il faut intégrer de plus en plus la notion de territoire. On a besoin, comme ça a été rappelé tout à l'heure et à juste titre, on a besoin d'une vision qui soit supranationale, parce que on va pas répondre aux problèmes de climat, aux problèmes géopolitiques, au développement de la Chine, du Brésil, de l'Inde, etc., de manière nationale et par un repli identitaire. Ça, c'est très clair. Donc, on a besoin de cette Europe continent. À côté de cela, on a aussi besoin de redonner aux citoyennes et aux citoyens le sentiment qu'ils peuvent s'approprier la politique et qu'ils peuvent la mettre en œuvre au quotidien. Et donc ça, ils ont besoin d'une relation proche avec leur ville, avec leur région, avec leur territoire. Et on sait très bien, par exemple, pour les questions des pollutions, pour les questions de la mobilité, pour les questions de l'énergie, on sait très bien que les régions, les territoires vont jouer et jouent déjà un rôle majeur. Je ne suis pas, moi, inquiet. Je ne pense pas qu'on va aller vers 85 États, etc. Mais on va avoir à repenser le rapport territorial et le rapport continental.
En attendant, on va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète, avant évidemment de retrouver nos invités. À tout de suite.
Spotkania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stawrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour Carrefour de l'Europe, deuxième partie. 2018 sera-t-elle une bonne année pour l'Europe, voire l'année de l'Europe, après les multiples crises que l'Union européenne a affrontées au cours de cette décennie passée? A priori, plutôt oui, avec Emmanuel Macron président et Angela Merkel chancelière, deux Européens convaincus à la tête des deux plus grands pays de l'Union européenne. Tout semble aller pour le mieux en ce début d'année, d'autant plus que les clignotants économiques, croissance et chômage sont au vert. Mais voilà, Angela Merkel n'arrive pas à former son gouvernement et l'Allemagne se trouve dans l'incapacité d'accompagner Emmanuel Macron dans sa volonté de réformer l'Europe. Et l'horizon s'assombrit avec une élection en Italie qui pourrait voir la victoire du clown Beppe Grillo, une incertitude quant à l'intégrité territoriale espagnole, le Brexit qui mobilise bien des énergies et une tendance illibérale en Pologne comme en Hongrie ou encore l'extrême droite au pouvoir en Autriche. Alors dans ces conditions, 2018 sera-t-elle l'année européenne? Je vous représente les invités qui nous ont rejoints. Yves Bertoncini, le président du Mouvement Européen France, Pascal Durand, eurodéputé Europe Écologie, et en duplex de France Bleu Alsace à Strasbourg, Stefan Sedendorf, directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Avant de poursuivre notre débat, nous allons faire un petit détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Jerry Philly.
Bonjour Daniel.
La Bulgarie préside l'Union européenne depuis le 1er janvier pour une durée de 6 mois, et son premier ministre Boris Borisov a sa petite idée pour remplacer le Royaume-Uni qui, Brexit oblige, va quitter l'Union européenne.
Voilà, tout à fait Daniel. La Bulgarie a donc repris la présidence tournant de l'Union européenne. Elle a des grandes ambitions. Elle veut que l'UE relance carrément le projet d'élargissement. L'élargissement, rappelons-nous qu'en 2014, Jean-Claude Juncker a déclaré que l'UE, à ce sujet, devait marquer une pause. Mais avec toutes les crises que traverse l'Union actuellement, le Brexit entre autres, il commence à changer d'avis. Et justement, selon le Premier ministre bulgare, ce sont des pays des Balkans occidentaux, donc la Serbie, le Monténégro entre autres, qui peuvent remplir le vide que la Grande-Bretagne laissera après le Brexit. Lors d'une allocution l'année dernière même, il a expliqué que les Balkans possèdent une nature extraordinaire, des gens merveilleux, des montagnes, des rivières, des peuples travailleurs. C'est certes très poétique, mais pourquoi Borisov s'intéresse-t-il autant? À quoi il joue? Eh bien, tout d'abord, les frontières de la Bulgarie touchent celles de la Macédoine et la Serbie, elle est donc un pays limitrophe, et comme explique le quotidien, la crise migratoire de 2015-2016 a remis les Balkans sur la carte. Ils sont la porte d'entrée de l'UE. Il faut donc les associer à l'organisation de sa sécurité et de ses frontières. Ajoutez à ça l'œil de Moscou et le président Poutine qui lorgne la région, et on comprend que les Balkans sont redevenus stratégiquement très importants pour les Européens. Et il faut dire à Bruxelles, Borisov, il a la cote. Les Européens l'aiment. Et pour eux, explique le journal économique Capital de Sofia, cet ancien garde du corps, expert en karaté, est un homme prévisible, un adepte de la stabilité. C'est pour cette raison qu'Angela Merkel le soutient dans le domaine de l'élargissement. Il faut dire que le journal économique de Sofia n'est pas complètement emballé. Il regrette qu'au moment où Boyko Borisov pousse ses ailes, diplomatiquement parlant, pour faire entrer ses voisins dans la famille européenne, il n'entendra plus des questions gênantes sur la liberté de la presse, la lutte contre la corruption, et que tout de même la Bulgarie reste l'un des pays les plus pauvres de l'Union.
Merci Jerry, Courrier International, l'hebdo et courrierinternational.com, le site. Alors Yves Bertoncini, j'aimerais que l'on réponde indirectement à Boris Borisov, donc le Premier ministre bulgare. L'adhésion des pays des Balkans a-t-il une chance d'avancer au cours des 6 prochains mois? Les pays des Balkans, c'est la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine, l'Albanie et le Monténégro.
Il ne faut pas exagérer le rôle maintenant des présidences tournantes du Conseil des ministres, mais en même temps, on peut remarquer que dans cette année, il y a non seulement la Bulgarie, puis ensuite l'Autriche, c'est-à-dire deux pays qui portent une attention particulière à cette région, et donc ça explique pourquoi, on va en discuter au moins, et ça explique pourquoi le président Juncker a mis le rapprochement avec les Balkans dans ses priorités 2018. Mais le rapprochement, oui, il va essayer, il va avancer, il y aura des discussions. Est-ce que pour autant, il y aura une perspective d'adhésion qui sera réaffirmée? Ce n'est pas certain. De toute façon, c'est pas immédiat, hein, parce que c'est un processus qui est très long. Jean-Claude Juncker avait décrété une pause, mais de toute manière, c'était une pause factuelle. Aucun pays n'était assez prêt, avec tout ce qu'il faut faire, hein, pour se rapprocher des standards européens en la matière.
Ce n'est pas facile d'adhérer à l'Union européenne.
Voilà. Alors, ça sera d'autant plus difficile. En même temps qu'il faut demander l'avis des populations actuelles de l'Union européenne. Et il y a une forme de fatigue, on disait récemment, de l'élargissement. Ça va même plus loin. Parfois, il y a un petit peu de rejet d'un futur élargissement de l'Union européenne. Je crois que la question se posera différemment dans quelques années, quand d'abord, ces pays auront fait suffisamment de progrès. Et d'autre part, quand les Européens seront allés plus loin dans leur intégration, peut-être sous des formes à géométrie variable, dans le cadre de l'espace Schengen, dans le cadre de la zone euro ou en matière de sécurité collective. Parce qu'à ce moment-là, l'entrée des pays de l'Union dans l'Union européenne se fera peut-être pas tout à fait dans le cœur du projet européen. Donc n'allons pas trop vite pour fermer la porte à ces pays-là, parce que le paysage européen changera dans quelques années. Et puis parce que ça reste quand même une priorité stratégique pour nous, Européens, pour stabiliser ces régions-là, de leur donner une perspective de rapprochement avec nous.
Alors, Pascal Durand, si le dossier des Balkans n'est pas le plus prioritaire, quels sont les grands dossiers qui vont avancer en 2018, et non seulement ceux qui seront perçus comme une avancée de l'Europe qui protège, un thème qui est cher à Emmanuel Macron?
Ce qui est la réalité actuellement de l'Europe, c'est que on a un problème déjà de mise en œuvre d'une gouvernance, pour reprendre un mot à la mode, qui soit acceptée par l'ensemble des membres actuels, c'est-à-dire que ce soit pas simplement la représentation des pays riches versus les pays qui arrivent. Donc on a une difficulté, c'est déjà comment arriver à remettre un lien et une dynamique commune entre des États qui ne sont pas tous au même stade, ni de développement, ni de démocratie, ni
donc et qui n'ont pas la même histoire.
Et qui n'ont pas la même histoire. Certains sortent d'années de totalitarisme le plus brutal, d'autres sont des démocraties très anciennes.
Certains ont une histoire coloniale.
Il y a des histoires coloniales. Il y a énormément. Il y a un rapport qui est différent par rapport à l'intégration de populations qui viennent des pays d'Afrique ou autres. Donc on a là des sujets qui sont des sujets très importants. La question de la gouvernance, par exemple, économique. Ça, c'est une priorité, c'est-à-dire comment remettre de la transparence et de la démocratie dans un fonctionnement qui, pour le moment, est totalement opaque. Ça, c'est un premier point. C'est un sujet sur lequel il va falloir avancer. Le deuxième point est évoqué tout à l'heure par Yves Bertucci, c'est la question du budget européen. Ça, c'est également une priorité, parce que dans les sujets que vous avez abordés, il y en a un que vous n'avez pas traité, mais qui va également revenir en discussion, c'est la PAC, la politique commune agricole, qui est un énorme sujet dans le cadre de l'Union européenne.
Et une grande part du budget, environ 40%.
Exactement. C'est-à-dire la part majeure, la part du lion, c'est pour l'agriculture. Donc, et là, on va avoir une vraie question, parce que c'est pas simplement la question maintenant d'aider le développement de l'agriculture, c'est quel type d'agriculture on veut mettre en œuvre en Europe. Donc, il y a la question de l'agriculture, il y a la question du budget, il y a la question de la démocratie, il y a évidemment la question sociale qui commence enfin à apparaître, parce que tout simplement, l'Europe ne s'est pas construite sur des questions sociales, elle s'est construite sur des questions économiques. Il y a la question de la défense, il y a la question du rapport aux êtres humains, des déplacements de population, des arrivées de population, de l'intégration, pas simplement du droit d'asile. Donc il y a à la fois des questions sociales, des questions de démocratie et des questions, je vais dire, urgentes, telles que le climat, l'énergie et notre rapport au monde.
Alors Stefan Zehlendorf, est-ce qu'on pourrait dire à peu près la même chose en Allemagne? Est-ce qu'il y a une communauté de vues sur les sujets que vient d'aborder Pascal Durand et qu'aborderait à sa façon Emmanuel Macron tout autant, peut-être pas dans les moindres détails, mais en tout cas dans les grandes lignes? Est-ce qu'on partage cette vue, cette vision en Allemagne, quel que soit le gouvernement qui finira bien par sortir à un moment ou à un autre à Berlin?
La question, c'est quelle priorité on met là-dedans. Et là, certainement, il va y avoir des différences qui viennent des situations géopolitiques différentes entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne est plus tournée vers l'Europe de l'Est, mais qui viennent aussi des priorités politiques des uns et des autres. Donc, comment on peut se retrouver là-dedans? Je pense un aspect qu'il faudrait qu'on évoque aussi, la grande sagesse de l'Europe, si on peut dire quelque chose de positif, sur cette Union européenne en 2018. La grande sagesse, c'est sa gestion du temps. C'est-à-dire qu'on peut continuer à discuter d'une manière constructive sur les différents sujets avec un calendrier plus ou moins précis. Est-ce que c'est l'élargissement? Est-ce que c'est la réforme du budget? Est-ce que c'est la réforme de la PAC? Est-ce que c'est la question des réfugiés? Tous ces éléments-là, qui sont des politiques très difficiles à mener dans le cadre national déjà, et encore plus difficiles dans le cadre européen ou international, supranational, ils se retrouvent dans un calendrier, dans une méthode de travail, et il ne faudrait pas oublier que tout ça, cette partie qui est très peu visible, elle continue à fonctionner, même en absence de gouvernement allemand, on parle actuellement, ceux qui sont un peu positifs et qui pensent qu'on va se retrouver autour de Pâques avec un gouvernement de grande coalition sous la chancelière Angela Merkel, ils disent qu'on pourrait en même temps, si ça se concrétise, cette perspective, déjà entrer en négociation avec les amis français et au niveau européen. Et puis, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'Europe, ce n'est pas qu'une affaire de chef d'État et de gouvernement. Le 22 janvier aura lieu l'anniversaire du traité d'Élysée, du traité franco-allemand fondateur, et comme tous les ans, on veut le fêter en grande pompe. Là, on n'a pas de gouvernement qui pourrait vraiment le faire côté allemand. Du coup, on va avoir une résolution des deux parlements, de l'Assemblée nationale et du Bundestag, qui, d'après ce qu'on entend ici, sera plein de surprises. Et cette relation, elle continue, elle fait de la politique, même si momentanément, le gouvernement, il est un peu au ralenti.
Yves Bertoncini, vous vouliez réagir à tous ces propos de Pascal Durand et de Stéphane Seydendorf?
Oui, sur ces enjeux de gestion du temps et l'idée que, en fait, on est plus à la fin d'un cycle politico-institutionnel à Bruxelles et à Strasbourg. Pascal Durand et ses collègues auront à se prononcer sur beaucoup d'initiatives cette année, mais on termine ce cycle-là, puisqu'il y aura des élections européennes en 2019. Et donc, d'une certaine manière, c'est donc une année très utile. Parallèlement à cela, il y a un autre cycle qui commence à s'esquisser, et Emmanuel Macron essaie de lancer la réflexion, se projeter dans la suite. Alors, il emploie un mot qui est très ambitieux, peut-être trop, hein, la refondation, parce que je suis pas sûr que nos amis allemands aient envie de refonder toute l'Europe telle qu'elle est. Mais enfin, la chose qui est certaine, et c'est que tout ça est du moyen terme, plutôt. Parce que, d'abord, effectivement, il avait annoncé à la Sorbonne un nouveau traité de l'Élysée. Ben, par définition, il peut pas y en avoir un, puisqu'il n'y a pas de gouvernement stable en Allemagne. En même temps, il a annoncé la création, le lancement, bienvenue, hein, de conventions démocratiques rebaptisées consultations citoyennes. Et donc, d'une certaine manière, si on demande l'avis des citoyens et des peuples, on va pas décider pendant ce temps-là. Hein. Il faut quand même bien attendre ce qu'ils vont exprimer. Le mouvement européen prendra sa part, hein, dans ces débats qui auront lieu partout sur le territoire français, au-delà. Et donc, il est sur le moyen terme. Mais en même temps, on voit bien que la politique française est sur un rythme beaucoup plus rapide, parfois frénétique. On n'est pas du tout sur le modèle décisionnel européen avec des contre-pouvoirs, des consultations, des institutions qu'il faut mettre d'accord, 28 États membres. Il y a quand même, pardon hein, de reprendre cette expression, mais une dimension plus jupitérienne, verticale, qu'incarnait bien Nicolas Sarkozy, d'ailleurs à son époque, que réincarne Emmanuel Macron. Et ce volontarisme-là va quand même se heurter, hein, du point de vue de la gestion du temps à la grande mécanique européenne. Et donc, il faut être attentif à cela parce que, dernier point, il peut y avoir un risque en France que dans ce contexte, on puisse promouvoir ce qu'on appelle l'Europe à plusieurs vitesses, c'est-à-dire, en réalité, la traduction d'une impatience, hein, parce qu'il faut aller vite, allez, il faut y aller, mais qui est aussi la traduction d'une nostalgie française pour une Europe plus petite. Une Europe à 10 ou 12, Laurent Wauquiez le dit, Valéry Giscard d'Estaing avait fini par le dire, hein, dans un livre Europa. Et on voit bien que combiné à cette impatience, il y a, y compris hein, dans la sphère macronienne, cette idée que peut-être il faudrait refaire des choses, aller plus loin, le train va partir, qui même me suivent et les autres resteront. Le problème de cela, c'est qu'effectivement, ça pourrait fragmenter davantage l'Union européenne à un moment où on a absolument besoin d'affirmer notre unité sur de grands défis globaux face à Poutine, Trump, le chaos qui nous entoure, et puis des défis comme le changement climatique, la montée en puissance de la Chine. Et donc voilà, sur cette gestion du temps, je crois qu'on touche un point absolument essentiel pour arriver à, j'allais dire, concilier la mécanique politico-institutionnelle française et a fortiori quand elle est incarnée par un jeune président dynamique et ambitieux, avec les rythmes de la construction européenne qui sont plutôt de moyen terme.
Ce que vous avez exprimé entre autres, Edouard Tontini, c'est qu'il y a toujours en France la tentation de qu'est-ce que c'est que l'Europe ? C'est la France en plus grand.
Exact. Vous me l'ôtez de la bouche, mais je pense Pascal Durand.
C'était la fameuse phrase de Nikon Bendit. Il faut que les Français comprennent. Les Allemands, ils disaient la même chose des Allemands. Hein. L'Europe n'est pas l'Allemagne en plus grand. L'Europe n'est pas la France en plus grand.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, quelle Europe en 2018 ? Nous sommes avec Yves Bertoncini, le président du mouvement européen France, avec Pascal Durand, eurodéputé Europe Écologie, et avec Stefan Zehnendorf, le directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Alors parmi les choses un peu pratiques qui vont devoir avancer cette année, il y a autour du thème des migrations, la nécessité d'avoir, de définir de peut-être mieux protéger les frontières extérieures de l'Europe, de définir une politique de migration, d'immigration, et d'avoir un droit d'asile européen, ce qu'on n'a pas pour l'instant. Est-ce que, qui veut rebondir sur ça, Bertoncini ou Pascal Durand ou Stefan Zehnendorf, qui veut parler ?
Non, mais enfin, Pascal Durand. Moi, je voudrais bien que l'Europe soit au rendez-vous de cette question, qui est une question essentielle pour les années qui viennent. Enfin, les déplacements de populations qui soient liés à des questions climatiques, à des questions économiques, à des questions de guerre, sont des réalités. Enfin, je veux dire, il faudrait, là aussi, vivre dans un monde surnaturel pour ne pas le voir. Donc, l'Europe n'a pas été au rendez-vous, et là, ça n'a pas été la faute ni de la Commission ni du Parlement qui ont vraiment essayé de faire en sorte que l'Europe soit là, qu'elle puisse partager les à la fois les arrivées, les gérer humainement et économiquement et politiquement. Les États n'ont pas été au rendez-vous. Et l'Allemagne a fait un aller-retour. À un moment, l'Allemagne a dit OK, on ouvre. Et puis après, elle l'a payé extrêmement cher politiquement, puisqu'en gros, il y avait que les Grünen pour la soutenir en Allemagne, Madame Merkel. Donc, on se retrouve dans une situation où on est là. Dans la démonstration que l'Europe n'est pas en capacité, en réalité, de jouer le rôle qu'on attend d'elle, ni sur un plan de respect du droit, parce que l'Europe a une image, et pas que, elle s'est construite sur le respect des règles de droit. Eh bien, commençons déjà par faire en sorte que les règles sur le droit d'asile, les traités de Genève et autres soient respectées. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, on ne s'est pas montré en capacité, alors que nous sommes la zone la plus riche de la planète, nous ne sommes pas montrés en capacité d'accueillir dans la dignité. Le mot dignité est un mot qui ne doit pas disparaître de notre vocabulaire. C'est pas un gros mot, le mot dignité, le mot solidarité, le mot respect des êtres humains et de leur France. Donc là, l'Europe n'a pas été au rendez-vous, clairement. Elle a préféré financer, avec la Turquie ou d'autres pays, elle a préféré financer une sorte d'extradition de ces problèmes-là en disant « bon ben écoutez, on va les régler en amont ». Donc elle n'est pas au rendez-vous sur les aides au développement, elle n'est pas au rendez-vous non plus sur le financement de ce que nous devons faire. Donc très 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 clairement, c'est un des chantiers auxquels il faut là maintenant s'atteler de manière très forte. L'Europe doit changer ses pratiques à l'égard des migrations et des populations. Mais ça veut dire aussi qu'elle doit être unie sur la capacité à répondre à Erdogan, sur la capacité à répondre aussi aux États, notamment du Proche et du Moyen-Orient.
Stefan Zehnendorf, quand vous entendez Pascal Durand, comment vous avez envie de réagir ? Comment évolue un petit peu cette politique de migration en Allemagne ? Et est-ce qu'il y a une unité aujourd'hui de vue dans l'éventuel gouvernement de grande coalition qui se mettrait en place ?
La situation, elle a surtout évolué puisqu'il n'y a plus la situation d'urgence qui existait en 2015 avec ces centaines de milliers de personnes qui étaient là, qui étaient en route, qui étaient là et qu'il fallait accueillir. Et tout ce qu'on peut reprocher à Madame Merkel, qu'elle ouverte la porte ou qu'elle a pas bien géré cette situation, elle a fait ce qu'il fallait faire puisque c'était une situation d'urgence et de crise humanitaire qui frappait à la porte de l'Europe. Donc aujourd'hui, nous avons une autre situation. Il s'agit de gérer les personnes qui sont arrivées, de voir qui peut rester, qui doit repartir, de les intégrer aussi bien qu'on peut et en même temps de bâtir quelque chose de plus durable selon les lignes que Pascal Durand vient d'esquisser. Et là, évidemment, en tant qu'analyste, j'ai l'avantage face aux politiques, à l'homme politique, que je peux demander, mais comment on fait ? Je suis assez sceptique que l'Europe, les États, il a raison, Pascal Durand, c'est plutôt les États que le niveau européen, et si ça se met d'accord sur une politique ambitieuse autour de cette question d'établir un droit d'asile et un droit d'immigration vraiment commun. Ce sera peut-être plutôt une des premières fois qu'on verra une coopération renforcée de quelques États qui sont prêts à être solidaires dans cette question et à coopérer vraiment, qui se font aussi confiance. Si je regarde aussi le gouvernement allemand, il ne dira pas comme ça, mais il fait assez peu confiance aux services de sécurité, aux douanes de certains pays en Europe de l'Est. La coopération, elle se passe beaucoup mieux avec les collègues italiens ou français, et ce serait peut-être autour d'un noyau de quelques États qu'on verra une coopération renforcée sur ce sujet, qui ensuite pourra éventuellement, comme c'était le cas pour Schengen, intégrer dans l'acquis communautaire.
Alors, 2018, évidemment, ce sera peut-être une grande année européenne, et on le saura évidemment à la fin de l'année, si finalement cette improbable conjonction de bonnes fées européennes, on l'a dit, des leaders européens très convaincus, une conjoncture plutôt favorable, un certain nombre de facteurs qu'on a évoqués, eh bien si on arrive à transformer ces bonnes fées européennes, cette conjonction de bonnes fées européennes, en une adhésion populaire, car en 2019, vous l'avez évoqué, Yves Bertoncini, il va y avoir l'élection européenne. Donc le succès, c'est est-ce que finalement les Européens auront de nouveau confiance en l'Europe? Alors je m'adresse à l'homme politique Pascal Durand.
Oui, encore que Yves Bertoncini n'est pas complètement absent des questions politiques. Non, bien sûr que nous espérons que 2019 soit une reconquête de l'électorat, de la citoyenneté européenne, bien sûr. Moi, je l'espère. On a vu dans le cadre, là, pour revenir sur un cadre français, puisque les élections restent quand même nationales, on a vu dans le cadre français, dans l'élection présidentielle, que le président Macron a défendu l'idée européenne et qu'il a gagné sur cette question-là, que Marine Le Pen a été obligée de reculer, qu'elle s'est mélangée sur la question de l'euro. Enfin bon, on voit très bien que là, il y a eu une j'allais dire l'imaginaire a un peu changé de camp. C'est-à-dire qu'avant on était en 2014, on a eu une élection, on était tout le temps sur la défensive. Les pro-européens étaient obligés de se justifier de tout, sur l'euro, sur les frontières, on était tout le temps obligés de répondre, on était sommés de répondre. Et bien là, je pense que ça a changé de camp et que finalement la nécessité d'Europe. Après, quelle Europe, hein, ça va être tout l'enjeu, à mon sens, du débat de 2019. Quelle Europe nous voulons construire? Quelle solidarité? Quelle Europe sociale? Quelle Europe démocratique, etc. Mais j'ai le sentiment que nous pouvons mener en 2019 une campagne de reconquête à l'égard du projet européen. Un projet, évidemment, qui doit être revu, modifié, amélioré.
Alors, il y aura aussi la question des circonscriptions. Il y a deux possibilités. Soit on va de nouveau vers une grande liste nationale, soit on va, autre possibilité...
Vous allez trouver notre point de désaccord, là, ça y est, il en fallait un, au moins, là-dessus.
Soit on imagine, la France a réformé ses régions, il y a 16 Länder en Allemagne, 13 régions en France, et des élections européennes qui correspondent au périmètre des nouvelles grandes régions françaises. Alors, Yves Bertoncini.
Oui, sur ce point, le mouvement européen n'est pas du tout convaincu de la nécessité de revenir à une liste nationale, et nous préférerions qu'on utilise les nouvelles régions métropolitaines, 13, y compris en regroupant une ou deux, parce que Corse, PACA ou Bretagne-Loire, pour maintenir une forme d'ancrage citoyen qui reste un ancrage pas idéal, hein, parce qu'on peut pas envoyer 577 députés français à Strasbourg. Donc l'ancrage est évidemment limité, mais raison de plus pour pas le remettre au niveau national. Mais ça, je dirais que au-delà du mode de scrutin, ce qui comptera, c'est surtout la façon dont le débat sera organisé. Je retiens que Europe Écologie Les Verts avait fait une très bonne campagne, qui était de fait une campagne nationale, hein, même s'il y avait des circonscriptions régionales, conduite par Daniel Cohn-Bendit, et Pascal Durand y jouait un rôle. Je retiens que Nicolas Sarkozy, en 2009, avait aussi fait une campagne européenne assez forte, qui lui avait d'ailleurs permis d'obtenir 29% des voix. Donc on peut, et on doit, faire une campagne européenne, avec évidemment un président de la République qui doit montrer comment il va inscrire sa vision dans un agenda un peu plus opérationnel, et qui peut-être, et je le dis pour son mouvement, ne doit pas croire qu'ils ont le monopole de l'Europe d'ailleurs, hein, parce qu'il y a une nécessité dans le débat public d'avoir plusieurs visions, plusieurs types de propositions pour le fonctionnement et l'avenir de l'Union européenne. Mais si vous me permettez d'ajouter une chose, et notre débat sur l'asile et les réfugiés m'y fait penser, je crois que il sera très important dans le débat débat public français. Non pas seulement de ne pas croire que l'Europe, c'est la France en plus grand, parce qu'effectivement, il y a forcément une culture de compromis. Je crois que la France peut apporter, et tous les partis, hein, chacun selon leur sensibilité, cette vision du monde. Qu'il faut absolument essayer d'imposer dans le débat pour montrer que quand nous regardons tous ensemble le monde, il y a des intérêts, un intérêt à s'unir. Nous sommes Européens, nous sommes Français, nous sommes Européens. Unissons-nous davantage. Mais dernier point très important. Je crois que l'un des apports d'Emmanuel Macron dans sa campagne électorale, c'était d'essayer d'en finir avec le franco-scepticisme. C'est-à-dire l'idée que la France va pas y arriver, qu'au fond, tout est foutu, et que d'ailleurs, tout ça, c'est la faute à l'Europe, ou à la mondialisation, ou à Berlin, ou à que sais-je encore. L'un de ses apports, et on le voit d'ailleurs, ça a modifié un peu la psyché collective en France. Ça a été de ne pas prendre l'Europe comme un bouc émissaire, et de surtout bien expliquer que tout part de la France d'abord. Évidemment qu'il faut qu'Emmanuel Macron réforme la France, hein, d'ailleurs, parce que c'est important pour sa légitimité et son influence vis-à-vis, non pas seulement des Français, mais de ses partenaires européens. Mais si, non pas seulement lui, mais les autres partis politiques peuvent rester sur cette idée le destin de la France se joue, pour beaucoup de sujets importants, l'éducation, le logement, en France d'abord. Et que, de surcroît, il se joue aussi au niveau européen et que donc il faut une vision positive, constructive, avec des nuances, des alternatives bien sûr, et même des visions eurosceptiques naturellement. Eh bien, on aura eu un grand débat lors des consultations citoyennes d'abord, mais surtout lors de cette campagne des élections européennes, qui sera très très utile pour l'idée que les Français se font de l'Europe, la façon dont ils peuvent contribuer à son fonctionnement et à son avenir, et puis évidemment au-delà pour le futur de la construction européenne à 27.
Alors évidemment, 2019, deux années qui seront forcément très très européennes. Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Munier, avec la complicité de Jerry Philly de Courrier International, de Maria Afonso et de Samia Metheny, et de France Bleu Alsace. Merci à eux. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Pour réécouter ce Carrefour de l'Europe et tous les autres d'ailleurs, RFI.fr ou les applis mobiles de RFI, elles sont très performantes et gratuites. Formidable. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desesquelles, où que vous soyez en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.